Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour avec le rapport de la Cour des comptes dont les échos ont pu avoir une lecture anticipée. On découvre ça en page 2 du quotidien. La Cour des comptes met en cause l'inaction de ces dernières années. Elle alerte les nouveaux députés et le futur exécutif sur les enjeux à venir. On a l'impression qu'elle répète éternellement les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il faut continuer à répéter éternellement les mêmes choses? J'en arrive à la conclusion que la réponse est probablement oui, parce que visiblement, ça ne rentre pas dans certains esprits. On sent de plus en plus disparaître le tabou des hausses d'impôts. À nouveau, aujourd'hui, dans les propos tenus par Pierre Moscovici dans les colonnes des Échos. Et puis, on réagira à cette proposition choc d'Antoine Fouché, l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui dit qu'il faut financer autrement la protection sociale. Ça veut dire libérer le travail et se diriger vers d'autres assiettes, comme l'héritage par exemple, ou comme les retraites. Il y a eu ce rapport de l'IGF qui a dédouané Bercy sur les dérapages des comptes 2023. Selon l'IGF, ce dérapage ne pouvait pas en grande partie être anticipé. C'est donc un document qui va dans le sens de la défense de Bruno Le Maire, notamment devant la commission des finances du Sénat. On regardera les dernières publications de la Banque de France, notamment note de conjoncture, situation des entreprises françaises, et puis ce fameux indicateur d'incertitude dont on a parlé la semaine dernière. Enfin, que va faire l'inflation? Patrick Artus, dans les Échos aujourd'hui, écrit que l'inflation n'est pas vaincue, que actuellement elle ralentit, mais à cause de raisons transitoires qui vont disparaître. C'était l'avis d'ailleurs du directeur général de BlackRock qui s'exprimait la semaine dernière. Et jeudi, la BCE devra déterminer que font ses taux. Tout le monde s'attend à des taux qui vont rester inchangés. On dira un mot du Bitcoin aussi. Le Bitcoin a réagi après l'attentat manqué contre Donald Trump. Agnès Benassi-Quéré, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes sous-gouverneur de la Banque de France et professeur à l'École d'économie de Paris, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Neoma Business School. Elle se débrouille toujours pour avoir une actualité crypto-monnaie quand elle vient, Nathalie.
C'est dingue.
Bah oui, le Bitcoin a repassé les 60 000 dollars.
Plutôt, ouais, voilà. Parce que petite Trump... forme jusqu'à, juste avant, ouais. Et puis tout d'un coup, paf.
Voilà, paf. Comme
c'est
vous
parce
dites.
Qu'ils savent que je viens, paf. C'est pour ça. C'est vrai,
non mais le fait que Donald Trump soit un pro-crypto, voilà, ça a suffi.
Tout à fait.
Et Leonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de médiation et arguments, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République. Une place de marché, des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Je vous redonne les principales conclusions du rapport de la Cour des comptes. Je ne sais pas qui voudra commencer. La Cour des comptes dit que 2023 a été très mauvaise, que 2024 est à risque, que la trajectoire 2027 est peu crédible et peu réaliste. Elle a du mal à croire à la perspective de croissance du gouvernement. Elle a du mal à croire à un déficit sous les 3% en 2027. Elle a du mal à croire à une stabilisation de la dette. Elle alerte sur le fait que nous avons trois éléments, croissance, dépenses, recettes, et que si les trois déraillent, on sera pas loin de 6% de déficit en 2027 avec une dette qui pourrait toucher les 120% du PIB. Elle met en cause le fait d'avoir baissé les impôts de 60 milliards d'euros depuis 2018 sans mettre aucune mesure de compensation en face, qu'il s'agisse de baisse de dépenses ou d'économies structurelles. 2023 a été une occasion manquée, dit le rapport de la Cour des comptes, car cette année, 2023, il n'y a pas eu de choc externe, il y avait donc la possibilité d'agir, et elle déplore enfin l'isolement de plus en plus grand de la France en Europe, rappelant que nous avons la troisième dette de la zone euro, le deuxième déficit le plus élevé, et que notre dette est 15 points au-dessus du niveau d'avant Covid, quand c'est 3,7 en Allemagne, 5,9 en Espagne, 4,7 en Italie, avec la même monnaie, avec les mêmes chocs exogènes, avec la même pandémie. Ça sert à quelque chose, Leonidas, de continuer à rabâcher là, le...
Écoutez,
oui, il faut vraiment continuer à le faire, parce qu'un jour, ça passera plus.
Non, j'aimerais quand même, après un tel réquisitoire, rendre hommage au travail qu'a mené Bruno Le Maire quand même. Et je le fais d'autant plus que nous avons été énormément d'entrepreneurs à être en soutien
de la politique. On ne dit pas que la politique de l'offre a été un échec.
Non,
là, on parle des comptes publics.
Non, je suis bien conscient, mais il y avait un pari derrière la politique de l'offre. Et le pari, c'était que cette politique de l'offre, un peu comme un investisseur, au moment où il investit, on peut dire il perd de l'argent. Mais est-ce que investir, c'est perdre de l'argent? Donc l'idée, c'était que l'on investit dans l'offre des entreprises, que l'on accompagne cette dynamique, qu'elle va apporter de la croissance et que cette croissance va assainir nos comptes publics. Ça, c'est le pari sur lequel nous avons collectivement, et je pense que tous les entrepreneurs honnêtes doivent en prendre leur part, nous avons fait ce pari tout en demandant des réformes, et les réformes ne sont pas venues. Il y avait probablement des occasions manquées et probablement aussi des accompagnements comme celui de l'inflation qui ont été excessifs.
Excessifs, trop longs et mal ciblés, dit la Cour des comptes, comme c'est pas d'ailleurs la première fois qu'on entend cette critique.
Soit. En revanche, je pense que ce que nous pouvons prendre comme part de déception ou d'erreur d'analyse, c'est que la croissance que l'on attendait, en tous les cas, n'est pas arrivée aussi vite et aussi fort que l'on pouvait l'espérer. Et le résultat, c'est que cet écart ne cesse de grandir et que notre comparatif par rapport à d'autres pays qui sont retrouvés dans la même situation n'est pas bon. Maintenant, la réforme de l'État n'a jamais été un sujet ouvert.
On est d'accord. Oui.
Également, régulièrement, et je pense qu'il faut également le mettre au crédit de Bruno Le Maire, il a réclamé une évolution de notre modèle social qui est un fardeau mal porté, ou en tous les cas qui n'arrive plus à être convenablement financé, et d'ailleurs son nouveau livre récent qui a 6 mois est documenté sur ce point, où il a réclamé nombreuses fois et à nouveau dans cet ouvrage Le Modèle Français, une réforme de notre modèle social. Ces réformes-là ne sont pas venues, et c'est probablement sur ce point-là que les efforts doivent porter. En revanche, il a aussi porté la crédibilité de la France. C'est probablement la raison pour laquelle nous n'avons pas été dégradés. Et maintenant, cette situation d'alerte collective...
On l'a été, mais... Pas beaucoup.
Dans tous les cas, ce constat-là s'impose à tous. Et j'aime beaucoup cette synthèse du président de la Cour des comptes. Assainir nos comptes, ce n'est ni de droite ni de gauche,
oui.
C'est d'intérêt général.
Bon, oui.
Absolument.
Réaction Agnès Benassiquiré, Nathalie Janson à ce rapport de la Cour des comptes. Je ne vous ai rien appris, je crois. Agnès, vous n'avez rien appris. Vous saviez tout ça.
Non, alors on est un peu dans...
On va revenir après sur le financement.
On est dans une seringue parce que la dette publique coûte de plus en plus cher. Ben c'est assez facile, quand on est un peu au-dessus de 100% du PIB, de calculer ce que coûte un point de taux d'intérêt supplémentaire en termes de paiement d'intérêt à terme, puisqu'on a une maturité qui est quand même supérieure à 8 ans.
Oui, à peu près.
Mais je voudrais réagir peut-être... la France est l'un des pays, ou si ce n'est le pays, avec les dépenses publiques les plus hautes en pourcentage du PIB. Ce n'est pas l'État seulement.
Oui, ce n'est pas l'État seulement.
Et d'ailleurs, il y a un petit effet d'optique, parce que en fait, l'État a transféré des ressources aux collectivités territoriales, dont les dépenses ont augmenté, sans faire de déficit courant, parce que c'est par construction.
C'est hors la loi.
Mais après, ça devient très difficile pour l'État de toujours supporter les baisses de dépenses, même s'il y a encore... par exemple, on pourrait discuter la politique du logement qui coûte très cher et qui n'est pas très efficace.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais,
40 milliards par an.
Mais voilà, donc il y a quand même chaque poche. Il y a bien sûr la protection sociale qui est le gros des dépenses par rapport à nos partenaires, mais il y a aussi les collectivités territoriales qui ont bénéficié de transferts de ressources, qui ont vu leurs dépenses augmenter beaucoup plus vite que celles de l'État, et où c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre des réductions. Ça pose la question du millefeuille qui sont récurrentes, mais aussi plus généralement. Et on a toujours tendance à dire, finalement, ce qui est local, c'est bien, et ce qui est l'État, c'est mal. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est l'État qui finance en partie ce qui est local et qui a du mal à contrôler les dépenses. Donc je pense que le débat budgétaire, il est nécessaire. Pour moi, il y a un thermomètre qui est important, qui est le solde budgétaire qui stabilise la dette. Et en fait, c'est le taux de croissance nominale fois le taux d'endettement.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, ça nous donne de l'ordre de 4,1% du PIB pour 2024. Donc, si on est à 5,5, on est clairement au-dessus. Et stabiliser la dette, ça ne suffit pas. Il faut la réduire pour la prochaine crise. Donc, on voit qu'on est vraiment au-dessus. Et il n'y a même pas de question de réduire le déficit.
C'est quand même intéressant de voir ce rapport de la Cour des comptes en résonance avec les promesses politiques qui nous ont été faites pendant un mois, là, avant ces législatives, même pas un mois.
Des connexions. Absolument.
C'est pour ça qu'il faut sans doute répéter éternellement. Parce que la précision de votre démonstration est implacable, Agnès Benassiquiré. Mais quand on voit qu'on a 15 points, on est 15 points au-dessus d'avant Covid, là où il y a des pays qui sont à 3 ou à 4 ou à 5 qui ont vécu la même chose. c'est désespérant.
Oui, et qui prend un modèle social qui n'est pas si différent d'une autre. Bon, bien sûr, les retraites sont complètement socialisées en France. Elles le sont pas autant, peut-être, dans certains pays. Mais enfin, quand même, dans l'ensemble, il y a un modèle social européen qui donne satisfaction dans d'autres pays et qui coûte moins cher. Donc voilà, je pense qu'en France, on regarde pas assez comment font les autres pour dépenser moins avec un niveau de bonheur qui n'est pas très élevé.
Oui. Peut-être plus élevé si on en croit les crises que nous avons.
Je termine le tour de table avec vous, Nathalie Janson, par rapport à ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce cri d'alarme de la
Cour? Je vais faire un lien.
Parce qu'il y a un moment, à force de le dire, il y a un moment, ça risque de plus passer aussi.
Tout à fait.
C'est ça, quand même, le
risque. Je vais faire un lien, peut-être, qui va vous surprendre. Mais en fait, comme je. Non, pas du tout. Parce que comme je rentre de la conférence, donc, l'université d'été d'Aix-en-Provence, plutôt libre, enfin, plutôt libérale, où il y avait celui qui aurait dû prendre la tête de la Banque Centrale, Emilio Ocampo, avec nous, pour parler de l'Argentine. En fait, ça fait écho à l'Argentine pour deux raisons. Parce que...
C'est
pour ça, c'était histoire de vous donner un coup de massue. Aujourd'hui.
Mais ça démoralisant, voilà. Ce truc de ce matin.
C'est parce que, premièrement, cette histoire d'État local, enfin de l'État des finances publiques locales versus centrales, et puis le fait que l'État aussi couvre ce millefeuille. Eh bien, en fait, c'est un peu la situation argentine éternelle où, en fait, l'État, même s'il essaye de contrer ses propres finances, en fait, ne contrôle pas les finances des provinces. Et donc, il y a eu souvent cette histoire en Argentine où, en fait, à cause d'une politique très clientéliste, en plus développée au niveau local, ça avait été institué par Perón, en fait, on est allé dans cette accélération de l'endettement qui était difficile, en fait, à freiner. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, puisque, en fait, il a beaucoup insisté sur ses caractéristiques institutionnelles et du coup ça fait écho. Et en plus, eux, ils sont arrivés à 5% de réduction du déficit, ils s'en félicitent parce qu'ils étaient à bien ça. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que la comparaison était drôle, mais bon, ça s'arrête là. Pour notre part, ce qui est moins drôle, c'est qu'effectivement on voit bien que on est dans une situation qui est quand même très difficile, inextricable, avec des vrais il faudrait vraiment des vraies réformes de l'action de l'État pour pouvoir remettre les impôts à leur place, les dépenses sociales à leur place, les retraites et leur financement, visiblement sur les programmes qu'on a vu défiler dernièrement, qui ne sont vraiment pas à l'ordre du jour. Donc effectivement, extrêmement gentil, parce que je veux quand même pas, après on se fait toujours mal voir, mais voilà, donc on se dit, mais ont-ils vu la situation à laquelle on est aujourd'hui pour proposer des absurdités pareilles. Là je vais être un peu plus franco parce que franchement le problème, c'est qu'on étouffe la croissance. Enfin, je veux dire, ça a été clairement dit au début, on voit bien que le problème, la politique de l'offre est là, mais elle ne produit pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est étouffée par en fait, toutes ces dépenses publiques et ces problèmes de désincitation qui font qu'en fait, c'est limité par la portée. En fait, une seule politique de l'offre par certaines baisses d'impôts ne va pas pouvoir produire des effets vertueux sur l'économie, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont bloquer et qui vont empêcher le secteur privé, en fait, de pouvoir se financer, prendre des risques. Enfin, voilà.
Vous êtes prêt pour les hausses d'impôts? Tout le monde commence à les évoquer plus ou moins explicitement, de manière plus ou moins affirmative. La formule de Pierre Moscovici, c'est: ce débat fiscal n'est pas tabou, rien n'est interdit.
Non, mais en revanche, au-delà de savoir s'il y a une hausse d'impôts, je pense que ce qui est absolument nécessaire, et c'est peut-être le sujet qu'a ouvert à dessein et à juste titre Antoine Fouché, c'est que notre mix d'impôts n'est pas bon. Notre mix d'impôts n'est pas bon parce que ce que l'on désigne à tort, me semble-t-il, sous le terme de pouvoir d'achat, est en réalité un problème d'adhésion au travail. Il montre avec ses chiffres, avec énormément de justesse, que pour 100 euros gagnés dans le travail, on en garde 54 dans sa poche, alors que pour 100 euros gagnés à la retraite, on en garde 86 dans sa poche. Et que pour 100 euros gagnés en héritage, on en garde 94 dans sa poche. Donc le travail
Ne paye pas assez.
Pardon, mais j'allais presque dire que c'est la politique de l'offre qui est mise en défi, parce que la politique de l'offre devrait bénéficier à toute la société. Oui. Il devrait y avoir un consensus dans la société pour se dire on est là dans une dynamique.
Dans une incitation au travail.
Il y a une incitation au travail et toute la société est portée vers le travail. Mais pour que toute la société soit portée vers le travail, il faut que toute la société y gagne. Mmh. Or, le sentiment que l'on a quand on a gagné 100 et qu'il en reste 54, c'est que ça ne gagne pas et que donc on n'est pas les, chaque Français n'est pas le gagnant, n'est pas gagnant de là où il est de la politique de l'offre. Et ce décalage-là a totalement fissuré notre société. Je pense que ce point-là, en lui-même, pourrait justifier qu'il y ait eu une forme de reset de l'équation politique. En tous les cas, je trouvais que la réflexion qu'avait engagée Bruno Le Maire pour dire notre modèle social n'est pas bien financé en ne pesant que sur le travail était un cri d'alarme, une sonnette d'alarme justifiée. Oui, c'est pas nouveau, mais à un moment donné, il faut y aller. Et en revanche, ce que je regrette, c'est que le brouhaha politique depuis 3 semaines après le résultat de ces législatives n'est pas du tout mis au centre des débats. Cette question-là, elle est pourtant cruciale parce que c'est le consensus autour des entrepreneurs, des entreprises et du travail qui doit exister dans notre pays qui est remis en cause.
Bon, vous êtes tous d'accord pour dire que le modèle social, il faudra faire autrement? Mais...
Sur cette question de l'héritage, c'est intéressant.
Agnès Benassi-Kerré,
parce que...
j'ai déjà des auditeurs qui m'écrivent pour défendre l'héritage.
Hein. Voilà, ah bah, clairement. Exactement. Donc là, il y a vraiment...
J'ai travaillé toute ma vie pour laisser quelque chose à mes enfants.
Bah, c'est quand même le point de la liberté extrême là, hein, qu'on touche.
Allez-y, Agnès.
Il y a une divergence totale entre ce que disent les économistes et l'opinion publique sur cette question de l'héritage, comme sur la fiscalité de l'immobilier. En fait, les économistes aiment bien les assiettes fiscales immobiles. Donc l'immobilier, par définition, mais également l'héritage, pour une raison différente, c'est que c'est difficile à optimiser parce que vous ne connaissez pas la date de votre mort. Et donc...
J'aime bien le cynisme. C'est toujours bon.
C'est cynisme. Je ne fais pas partie de ceux qui le soutiennent. Donc
non, mais Agnès, continuez.
Mais c'est exactement la raison pour laquelle ces impôts sont impopulaires. C'est parce que justement, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc là, il y a vraiment une divergence entre la vision d'un économiste froid, cynique, et puis l'opinion publique. Et par-dessus ça, je ne parle pas de l'immobilier là, mais plutôt l'héritage, où finalement la plupart des gens ne le payent pas, mais n'ont pas...
La majorité des successions sont en dessous du seuil de 100 000 euros qui enclenche la fiscalité.
Il y a régulièrement des propositions de réformes structurelles, par exemple, d'imposer les héritiers et non pas la personne qui décède, enfin... l'héritage de la personne qui a décidé, donc tout au long de la vie, pour inciter les gens à donner.
Ah oui, c'était France Stratégie.
Voilà, et on accumule au cours du temps, et ça c'est une incitation à donner à un plus grand nombre de personnes. Puisque vous démarrez, chaque héritier commence à zéro, et puis au fur et à mesure des dons, ben, il augmente et donc...
Parce que je trouvais que le comparatif de ce qui reste dans sa poche après avoir eu 100 euros du travail, de l'héritage, de la retraite ou du capital, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille aller chercher dans l'un ou l'autre une taxation alternative. Parce que, par exemple, il y a la consommation. Je pense que l'idée de la TVA sociale est une idée sur laquelle on n'est pas allé assez loin pour la soulever, notamment parce qu'une TVA sociale permet de faire contribuer les produits importés à notre modèle social, alors qu'aujourd'hui il n'y contribue en aucune façon. Et donc, ne serait-ce que le fait d'avoir une TVA sociale qui permette de passer de 54 de revenus du travail à 60 ou 65 ou 70, c'est d'autres pistes simplement pour rééquilibrer les revenus du travail.
La TVA sociale, ça a été beaucoup étudié. C'est un peu comme une dévaluation en fait. Hein. Et donc, ça a un effet temporaire. C'est-à-dire qu'à terme, si la TVA augmente, les prix à la consommation augmentent, donc les salaires vont augmenter et donc le coût du travail va augmenter pareil et il est imposé pareil, en fait. Il y a une équivalence, si vous voulez, à ceci près que la France est en déficit extérieur et donc là, il y a effectivement un impact qui peut être positif, mais c'est vraiment à la marge.
Oui,
on ne peut pas utiliser ça comme source de financement, c' 'est ça que je veux dire.
Pardon de vous dire cela avec...
On ne peut pas utiliser, c'est-à-dire Agnès...
La TVA sociale.
Oui, la TVA sociale.
Une hausse de la TVA compensée par une baisse de la fiscalité sur
les
prélèvements sur le travail.
C'est un transfert, en fait.
C'est un transfert.
Oui, c'est un transfert.
Budgétairement, c'est
mais ça sera neutre.
Mais enfin voilà. Bon, je, pardonnez-moi, mais
il faut prendre la CSG dans ces cas-là.
Oui, il y a la CSG éventuellement pour les retraites, mais pardonnez-moi, ce chiffre de 54 qui reste dans la poche sur 100 du travail est
ah, mais c'est un problème.
Insoutenable. Oui. Pardon, ça veut dire qu'il y a d'autres
mais pistes. Mais c'est pas par la TVA qu'on le résout.
Enfin, il y a d'autres pistes qui sont peut-être critiquables, oui. Mais pardonnez-moi, la situation actuelle, elle est juste intenable.
Ah, mais c'est oui, mais c'est pas comme ça qu'on résoudra le voilà ce qui explique Agnès, c'est que c'est pas en faisant ça qu'on résoudra, puisque en fait on ne fait que la transférer d'un autre côté. Mais les impôts de toute façon finissent par retomber toujours sur les mêmes personnes. C'est ce que comme on l'explique souvent, même
pas
sur la
même
TVA,
manière.
Mais bien sûr que si, parce que de toute façon il y a pas la TVA, c'est au niveau de l'incitation en fait. Donc comme on l'explique dans les premiers cours d'économie, c'est l'incidence fiscale. Vous avez un impôt et de toute façon que ce soit l'offre ou que ce soit la demande, ça ne change strictement rien à son résultat final, puisque ça dépend de la façon dont à la fois les producteurs peuvent en fait le faire passer au consommateur, ou le consommateur les consommateurs peuvent ne pas acheter ce produit, du coup ils l'évitent, mais en aucun cas ça ne transformera le fait que le travail va être mieux rémunéré. Ce qu'il faut essayer de trouver dans ces cas-là, c'est une fiscalité complètement différente où effectivement on va avoir un coût du travail qui sera une incitation au travail qui sera beaucoup plus élevée, c'est-à-dire qu'à la fin le salarié aura beaucoup plus dans sa poche, mais c'est pas en faisant la TVA sociale qu'on va y arriver, c'est en déplaçant en fait la source de l'impôt, ou alors en remettant à plat le système de l'impôt, puisque nous on a opté pour la progressivité de l'impôt par exemple. Il y en a plein d'autres où vous avez plein d'études aussi qui plaident pour un impôt beaucoup plus bas pour beaucoup plus de monde.
Alors je pense que c'est un peu convaincu par la démonstration. Oui. Puisque quelqu'un qui...
J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis sur la CSG sociale du coup. Est-ce que là, il n'y aurait pas une piste à creuser? On fait porter la facture par
tout le monde.
Tout le monde, au lieu de la faire porter par les travailleurs.
Ah bah, de toute façon, là, moi je suis personnellement plutôt en faveur de l'impôt par tête. Autant qu'il soit très faible, mais par tête, puisque de toute façon, on habite tous un pays où on a des services publics qui nous sont rendus. Donc de toute façon, on devrait tous payer une obole.
Si je résume ce que vous me disiez à l'instant avec l'histoire de la TVA sociale et en fait le côté inopérant de ce que vous m'avez décrit toutes les deux, ce que je vais gagner d'un côté, je vais le payer de l'autre.
Ce n'est pas tout à fait le cas.
Bon, parce on
va peut-être remarquer, mais la différence entre quelqu'un qui consomme 100 dans un mois et quelqu'un qui consomme 10 000 dans un mois,
dans un instant,
c'est que celui qui consomme 10 000 dans un mois paiera davantage de TVA sociale que celui qui n'en consomme que 100. Je ne suis pas tout à fait certain que votre équation...
Dans un instant, on dira un petit mot du rapport de l'IGF qui a donné un peu de baume au cœur à Bruno Le Maire qui s'est fait ça sérieusement tirer dessus
avant
par,
qu'il parte on va lui lancer quelques fleurs.
Le Sénat a quand même pas mâché ses mots, hein. Il y avait le mot rétention d'information, ça. Bon,
non, il a été très fort, oui.
Donc là voilà, il a un rapport de l'IGF qui dit que c'était on n'a pas fait du grand n'importe quoi dans la comptabilité nationale en 2023, et puis on regardera ce que la Banque de France la photographie du moment de la Banque de France, notamment l'indicateur d'incertitude, c'était pour les chefs d'entreprise de l'UNIDAS. À tout de suite.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Agnès Benassiquéré, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris, l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Argument, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Je peux vous assurer que dès qu'on met héritage et taxes...
Voilà. Démonstration.
Taxer plus l'héritage revient à taxer ce qui a déjà été taxé avant, m'écrit Alexis.
Bien sûr.
Jean-Marc m'écrit, on ne gagne pas en héritant, c'est juste disposer librement de ses biens sur lesquels on a énormément été taxé. Bordel, termine-t-il. Voilà. Oui. On sent que ça énerve.
Il peut prendre décalement parce que
on peut échapper à l'impôt en fuyant dans un pays libre.
Non, mais on peut documenter des éléments, et je pense que tous ceux qui réagissent de manière allergique peuvent se dire que d'avoir 54 dans sa poche lorsque l'on a touché 100 de son travail, ce n'est pas une situation satisfaisante pour notre pays. Et il faut juste prendre des éléments comparatifs. Je n'ai pas dit qu'il fallait pour autant aller taxer l'héritage pour alléger les charges sur le travail. Mais en revanche, il faut changer notre mix fiscal et de charges pour financer notre modèle social.
L'idée, c'est d'avoir un salaire net qui monte.
Mais je trouve que ce que dit Antoine Fouché est très documenté. Il dit le travail, il restait 70 dans la poche d'un salarié dans les années 70, il en reste plus que 54. Des années 70 à aujourd'hui, c'est systématiquement sur le travail qu'on a fait peser les charges sociales. Et donc ça, ce n'est pas tenable. Ça brise le consensus social autour du travail.
Cet auditeur m'écrit taxer, c'est le seul mot qui revient alors que cela devrait être travailler. Allez, un petit dernier, puis je vous laisse réagir. Marrant que l'unique sujet soit comment récupérer plus d'argent sans regarder comment en dépenser moins dans le pays qui distribue le plus sur le plan social.
Là, c'était le sujet.
On a commencé par parler des dépenses.
Oui. Voilà. Oui. Continuons. Oui, mais non, mais... Continuons par rapport à ce que dit Leonidas. Que le travail paie davantage, que le salaire net augmente, quel est l'outil, comment faire?
Non mais attendez, c'est indispensable. On ne peut pas dire réhabiliter la valeur travail alors que la valeur travail est déshabilitée dans les chiffres de ce qu'il y a.
Ce qui s'est passé récemment, l'évolution, ça a été quand même plutôt le fait que le SMIC a été indexé sur les prix de la consommation, il a augmenté de plus de 10%, alors que les salaires juste au-dessus du SMIC ont augmenté beaucoup moins, et donc ils se font rattraper par le SMIC, et là il y a une certaine désespérance des gens qui ont été absorbés, qui se retrouvent SMICards, alors qu'initialement ils étaient au-dessus.
Ça, je pense
que c'est un problème majeur,
un problème absolument
qui n'a rien à voir avec la fiscalité.
Ah si, non. Ça a à voir avec la fiscalité, mais pardonnez-moi, parce que lorsque l'on a, enfin je trouve ce chiffre très intéressant,
avec le salaire
lorsque
minimum,
l'on passe du SMIC à un salaire qui n'est plus déchargé parce qu'on dépasse le SMIC, ça coûte 400 ou 450 euros à l'employeur pour augmenter de 100 euros son salarié. Donc si il y a une trappe de SMIC, et à la limite le SMIC devrait être le salaire dans lequel on rentre dans le monde du travail, et on devrait rapidement voir son salaire croître. Il a été totalement déchargé, la marge devient très haute et tout le monde devient SMICard.
Je suis d'accord. Mon point, c'était que la fiscalité n'avait pas changé sur les bas salaires depuis 2 ans. C'était mon seul point.
Oui, mais en revanche, voilà, il y a la marche qui fait que lorsque l'on passe du SMIC à un salaire qui n'est plus un salaire de SMIC, cette marche est très haute.
C'est la fameuse trappe à bas salaire. C'est la trappe à bas salaire.
Et encore une fois, on en revient à cette même question qui est que, étant donné que les charges de notre modèle social ne reposent que sur le travail, eh bien, ça bloque tout le monde dans des bas salaires. Tout le monde devrait être aspiré vers des salaires plus hauts et ça ne marche plus.
En fait, il faut trouver la solution pour augmenter le salaire net.
Absolument.
Oui. Alors, sur la partie SMIC, c'est le travail de messieurs Bozio et Vasmer qui doit être rendu public là bientôt, normalement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer après sur l'ensemble des salaires pour éviter de se retrouver effectivement avec une telle ponction.
Mais c'est parce parce qu'on a un système fiscal qui est extrêmement bourré de 50 000 taux. Enfin, je veux dire, il est tellement complexe que de toute façon, il y a une lecture du système fiscal qui est très compliquée avec des systèmes incitatifs que même l'État, quand il le met en place, n'est pas capable de prévoir. Et je pense que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué et qu'on devrait. Enfin bon, voilà, moi, le leitmotiv, c'est de faire un système fiscal qui est facile à comprendre, c'est-à-dire où surtout il n'y a pas beaucoup de taux, et surtout même un seul, ce serait encore mieux. Et vous
n'auriez
pas cette trappe dans laquelle on est rentré, qui est la smicardisation, parce qu'effectivement, du coup, ce salaire, ça devient. Donc, quand vous cumulez un salaire minimum avec une complexité de la fiscalité, effectivement, vous tirez vers le bas les salaires. C'est-à-dire déjà le fait même qu'il y a un salaire minimum, déjà en soi, de toute façon, est un problème.
Mais pardonnez-moi,
Leonidas, on avance. Parce que
je ne suis pas un économiste.
Il y a plein de pays qui n'ont pas de salaire minimum.
Bien sûr.
C'est le dialogue social.
Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mal payés.
Oui, il y a des minimales branches.
Mais je dis que je suis entrepreneuriste parce que je pense que l'entreprise doit être un lieu de consensus et d'entraînement collectif de tous ceux qui sont dans cette aventure entrepreneuriale. c'est-à-dire les salariés, les dirigeants, les cadres. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde se dise waouh, on a formidablement réussi, et la réussite du travail. C'est pour ça que je trouve que le terme est absolument très très mal choisi. C'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est une question de savoir se dire waouh, je suis heureux, j'ai commencé à travailler, et avant je ne travaillais pas et j'étais malheureux. Or ce décalage là n'est plus ressenti.
Mais je vois pas en quoi j'ai dit le contraire.
Non, ce que je veux dire simplement. Ce n'est pas uniquement un problème, j'allais dire économique. C'est un problème de consensus social.
C'est quand même le fait que le travail ne paie pas, c'est quand même un problème. Et je pense que les gens qui s'énervent quand on veut taxer aussi leur héritage, c'est que ceux-là qui n'ont gagné effectivement que 54 en mettant de côté pour leurs enfants et on leur dit à la fin, tu vas encore payer, ils sont là, non mais là, faut vous abuser un petit peu.
Enfin, c'est comme la fiscalité sur le capital.
C'est normal que les gens s'énervent. Il y a un moment donné, on est quand même libre de choisir la façon dont on veut distribuer. Alors effectivement, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est la longévité, puisqu'aujourd'hui nos aînés, tant mieux d'ailleurs, vivent très très longtemps. C'est vrai qu'on n'hérite plus, du coup nous on hérite très vieux, parce qu'il faut que, voilà, quand on hérite. Alors effectivement, l'idée d'avoir un héritage, peut-être de signaler aux aînés que peut-être que de donner au fur et à mesure, c'est peut-être mieux, mais avec à nouveau c'est une libre décision. Enfin, je vois pas pourquoi on interférerait avec les préférences de chacun.
Le fait qu'un retraité garde 86 euros dans sa poche,
ça c'est autre chose, parce que là c'est d'une socialisation. Donc là c'est notre modèle aussi.
On peut vivre globalement mieux.
Vous savez combien
en ne travaillant pas que. Oui. Enfin bon.
Mais vous savez très bien combien d'économistes aussi essayent de promouvoir la capitalisation, et même une capitalisation qui peut être combinée à ce régime plutôt socialisant, et que en France on s'emploie quand même avec beaucoup d'efforts à le rejeter. Or il serait beaucoup plus juste et on n'aurait pas ces situations qui effectivement sont extrêmement étranges.
C'est un sujet compliqué. Oui, je retiens en tout cas de ce que vous avez démontré, c'est que c'est pas en jouant au sapeur camembert qu'on apporterait une réponse. Oui. C'est pas si je déplace les trous, qui c'est toujours les mêmes, mais il y a forcément. Oui, oui.
Et alors effectivement,
on va vous donner en salaire net, vous allez le payer en conso.
Oui, mais j'entends bien. Mais bon. Cela dit, alors, le complément de la réflexion, c'est la réforme de l'État. Bon. Et là, il faut dire la vérité. C'est quand même en jachère depuis longtemps.
Est-ce qu'on a été dur avec Bruno Le Maire et l'année 2023, Agnès Benassi-Kéré? Parce que là, l'IGF dit bon, écoutez, oui, il y a eu un écart substantiel, mais voilà, c'est pas d'abord complètement du jamais vu. Et pour une bonne partie, on ne pouvait pas l'anticiper. Sous-entendu, non, ils ont quand même bien fait leur boulot à Bercy et le Sénat a eu la dent un peu dure. Hein. Je sais pas.
Alors, l'écart sur 2023 est grand et il est dû essentiellement à une erreur de prévision des recettes.
Ce qui est le plus dur à prévoir, bien sûr.
Et en particulier de recettes très difficiles à prévoir, notamment l'impôt sur les sociétés, les fameuses rentes inframarginales sur les producteurs d'électricité, qui est quand même un prélèvement qui est nouveau. Et là, il y a eu une grosse erreur. Alors, dans l'ensemble, si vous voulez, quand le PIB en valeur augmente de 1% sur longue période, les recettes fiscales augmentent de 1%.
Donc, sur longue période.
Mais il y a des gros écarts selon les années. On est sorti pendant la crise, on avait plutôt une élasticité supérieure à 1. Donc quand le PIB nominal augmentait de 1%, les recettes augmentaient de plus que 1%. Et donc on s'attendait à un retour de bâton. Et donc les services avaient anticipé une élasticité inférieure à 1. Mais elle a été très inférieur, de l'ordre de 0,4 je crois, donc c'est très très bas, et c'est ça qui a surpris. Ça n'est, dans ce que montre l'IGF, il y a un joli graphique qui montre que il y a déjà eu encore pire, je crois 2013, je crois.
Oui, je crois que c'était 2013 ou c'était.
On a connu pire, alors tout va bien.
Donc ça arrive, et si vous voulez, c'est des erreurs que tout le monde,
des prévisionnistes qui arrivent.
On peut faire, c'est pas volontaire. C'est il y avait déjà une marge de précaution avec une élasticité déjà prévue qui était nettement inférieure à 1, et ça a été encore plus inférieur à 1 que ce qu'ils avaient prévu.
C'est bien de remettre les choses au point, parce que c'est vrai que les critiques ont été très acerbes, et d'ailleurs j'en ai été un peu l'auteur aussi, je le reconnais. Donc voilà,
vous avez été modeste, parce que moi j'ai connu d'autres qui ont carrément essayé de dire que c'était qu'on nous ment, on falsifie les comptes comme en Grèce. Ça a été très loin. Non, mais c'est pour ça. Donc je vous dis, vous avez été
Mais avant ce rapport de l'IGF, je partais du principe quand même qu'il y a des remontées mensuelles à Bercy ou qui sont quand quand même hyper précises.
Ben non, elles ne sont pas toujours hyper précises, voilà, justement.
Et que j'étais étonné finalement, il faille attendre le mois de mars 2024 pour réaliser comment c'était terminé 2023. Mais il y a des éléments d'explication qui permettent peut-être de mieux le cerner.
Je voudrais quand même, parce que vous posiez la question de savoir quel est le bilan de Bruno Le Maire, je trouve quand même que c'est un bilan qui est... alors, sur les comptes publics, je pense que tout le monde à Bercy regrette ce dérapage. Mais je trouve qu'il y a un raisonnement qui tient totalement la route, qui est de dire, imaginez ce qu'aurait été le coût d'une économie française, de nos entreprises, si elles avaient globalement subi le choc frontal.
Ah, le contrefactuel. Serions-nous si nous n'avions rien fait?
Voilà.
Ah bah là, c'est sûr qu'avec l'économie sous cloche en 2020, oui.
Alors, entre l'économie sous cloche, vous allez me dire, il y a d'autres pays qui ont subi le Covid, qui ont subi l'inflation.
Je pourrais vous le dire, oui.
Voilà, qui ont subi l'inflation.
Et la Suisse aussi a regardé ces différentes confédérations pour savoir là où ça avait été le mieux aussi. Alors, ça avait plein d'expérimentations.
Je ne suis pas totalement certain que nous puissions comparer la France et la Suisse, mais néanmoins, je pense que la lucidité du locataire de 7 ans de Bercy sur ce qu'il fallait faire pour redresser nos comptes durablement était bien là et qu'il a tenu l'économie. Enfin, moi, je pense qu'il a été à l'écoute permanente des entreprises, des entrepreneurs, et que cette politique de l'offre ne doit certainement pas être détricotée.
Mais tout le monde admet que la politique de l'offre a eu des effets positifs sur les entreprises.
Tout le monde, je ne sais pas.
Le point négatif, c'est les pertes de gains de productivité, et le point négatif, c'est les comptes de la nation qui sont quand même très déséquilibrés. 15,2 points de dette de plus par rapport à l'avant-Covid, quand c'est 3,7 points en Allemagne, moins de 6 points en Espagne, moins de 5 points en Italie. Même Covid, même choc énergétique, même devise... Même banque centrale, même politique monétaire, bon, c'est très bien, mais tout le monde considère que c'est allé trop loin, trop fort. Voilà. Et par exemple, on a mis 8 milliards sur le carburant de manière un peu dingo en 2022, pour un effet finalement qui était relativement à l'arrivée sur un bénéficiaire, ça lui faisait 100-110 euros sur les 8 mois d'économiser.
Oui, j'entends bien. À peu près pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles on entend des choses totalement farfelues en ce moment, c'est-à-dire que nous avons une société française qui est inflammable et un donc peu, oui. On a un peu quand même l'instinct, quels que soient les responsables politiques, de mettre l'arrosoir monétaire et financier sur toutes les crises pour essayer d'éteindre les incendies. Et ça, effectivement, ça fait des rappels aux comptes publics.
On avait ouvert le feu avec l'héritage, maintenant c'est la TVA sociale. Chacun a sa lecture et son avis. Ce débat m'intéresse. La Banque de France a publié des notes. Agnès Benassi, je vous laisse m'en sortir les conclusions principales que vous avez en tête, notamment ce fameux indicateur d'incertitude. Qu'est-ce que vous retenez de la moisson Banque de France de la semaine dernière?
Alors, la semaine dernière, nous avons sorti de nombreux documents. D'abord, une photographie des entreprises à la fin 2023, et qui est plutôt positive, en fait. Hein. Donc, ça rejoint...
Ça n'allait pas si mal.
Ça n'allait pas si mal. Un taux de marge qui est stable, voire en légère augmentation. Une trésorerie qui diminue, mais qui reste très nettement au-dessus de 2019, et encore plus de 2012. Enfin, c'est quand même impressionnant. En 2012, 30 jours pour les PME, en moyenne 30 jours de trésorerie. En 2019, en moyenne 40 jours. Et en 2023, 55 jours. Or, dans les enquêtes, les entrepreneurs s'inquiètent beaucoup de leur trésorerie. Donc là, il y a un petit écart, comme si aujourd'hui, la norme, c'était une trésorerie plus importante. Alors, cette trésorerie fait qu'ils ont bien encaissé aussi initialement la hausse des taux d'intérêt, puisque en fait la trésorerie également est mieux rémunérée, et donc on a même eu une amélioration en 2022 initialement. Bon, bien sûr, donc dans un autre document qui est le rapport sur la stabilité financière, on fait des projections, on propose des projections sur la couverture des intérêts par les bénéfices, et pour des entreprises, les entreprises dites vulnérables, donc ou même fragiles, on a une hausse de la proportion de ces entreprises qui est prévue pour les deux années à venir, mais qui reste gérable. C'est pas un mur, c'est pas extrêmement inquiétant. C'est une photographie, encore une fois, avant les élections. Alors, on a publié aussi une enquête de conjoncture, et c'est ça là que vous vouliez en venir, avec une augmentation quand même assez spectaculaire de l'indice de incertitude rapporté par les chefs d'entreprise, qui arrive à un niveau qui reste inférieur, mais quand même assez proche du niveau 2022. Les chefs d'entreprise qui parlent d'un arrêt de l'investissement, arrêt des commandes, arrêt des embauches, etc.
Donc,
c'est pas forcément durable, mais ça montre quand même la réactivité par rapport à la situation. Hein, cette enquête a été faite à cheval, au mois de juin. Donc avant le deuxième tour, et donc l'importance de lever les incertitudes sur quelle va être la stratégie économique et budgétaire dans les années à venir, ça c'est vraiment un point extrêmement important pour que l'assiette fiscale ne disparaisse pas, c'est-à-dire que y ait de l'activité ces efforts qui ont été faits dans les années à venir dans la politique de l'offre ne soient pas anéantis, ce qui entraînerait encore plus de problèmes budgétaires dont on parlait avant. Donc il y a un ensemble de... Alors ce qu'on voit aussi, c'est une baisse de l'endettement des entreprises qui s'était arrêtée évidemment avec le Covid, mais qui a repris. Et donc ça, c'est aussi une... Et en net, c'est encore plus visible, puisque comme la trésorerie a augmenté, en net, la dette nette diminue de manière continue. Donc ça, c'est aussi des points positifs. Donc l'État est plus sensible aujourd'hui qu'avant à la hausse de taux d'intérêt. Le PGE a été pour plus de la moitié remboursé. Donc il en reste.
Plutôt une bonne affaire pour les banques.
La photographie à fin 2023 était plutôt positive. Et là, on a la dernière enquête. C'est un petit signal d'alarme. On espère qu'il va se résoudre rapidement.
Et c'est pour ça que je trouve que ce rapport de la Cour des comptes sonne différemment cette fois-ci. L'ambiance n'est pas la même. J'ai rencontré à Aix-en-Provence des économistes qui se demandent quand même il faisait jour, paf, il fait nuit, quoi. Tout le monde pensait que le soleil ne se coucherait jamais, parce que too big to fail, parce que la France éternelle, parce que jamais de défaut depuis les assignats d'après la Révolution. Et ouais, mais attention, comme dit François Eccal, ne dites jamais jamais. Je vous ai promis qu'on parlait du Bitcoin, Nathalie Janson. Alors, je ferai peut-être de l'inflation, mais voilà, l'attentat contre Donald Trump a dopé le Bitcoin. Le voilà qu'il repasse les 60 000 dollars. Ben voilà ce qu'il fallait pour relancer le Bitcoin, n'est-ce
pas ? Exactement. C'est les Bitcoiners qui ont donc commandé un petit jeune. Un petit jeune, donc ça tombe bien.
Les théories du complot, si vous n'avez pas suivi depuis hier, c'est juste phénoménal.
Oui. Voilà, donc celle-là, une de plus. Sans doute, le jeune homme, il faudra regarder s'il n'a pas des Bitcoins quelque part. Il a été sollicité par le groupe Soutien Bitcoin pour essayer de le faire remonter, puisqu'effectivement, ça fait quelques semaines qu'il était plutôt à la baisse. Et trêve de plaisanterie. En effet, en fait, ce qui se trame au-delà de l'effet donc plutôt positif sur le Bitcoin, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, on continue à parler de réglementation. On avance un peu plus vers des pistes un peu plus sérieuses qu'avant. Et comme Donald Trump est en effet devenu pro-Bitcoin, puisqu'il a même des donateurs en Bitcoin, le fait qu'il serait, s'il est élu, il y aurait peut-être moins de chances pour que la réglementation soit, sévère, plus marquée sur les crypto-monnaies. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a effectivement une explication, c'est que Trump a une appétence au Bitcoin que Biden n'a pas, et que ces lois qui tournent en rond ces textes législatifs qui tournent en rond depuis 2-3 ans, si c'était Trump, on aurait peut-être un résultat moins sévère sur l'industrie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a sans doute eu cet effet positif.
Bon, ben voilà, c'était court mais bon. Hein, c'est ça.
Voilà.
Un peu d'inflation, ou qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse ? On a 4 minutes 30. Vous irez voir, j'ai pas tout lu, mais vous irez voir la une du Parisien qui fait parler des avocats spécialistes qui expliquent qu'il y a quand même des candidats à l'exil. Hein. Il y a quand même des gens qui commencent à se poser des vraies questions, notamment à cause du projet fiscal du nouveau Front Populaire.
Mais il est très clair.
Là, c'est trop de la politique de l'offre.
Non, mais on est bien d'accord. Mais j'aimerais juste répondre à vos auditeurs qui s'offusquent du fait que l'on puisse réfléchir globalement à autre chose.
Il n'y a pas que des avis négatifs.
Non, mais sur la question de la TVA.
Ah, il me refait la.
Non, mais non, c'est pas ça. Non.
Nicolas, vous n'auriez jamais dû lancer le débat.
Rassurez-vous, c'est pas pour recommencer. Non, il y a la nécessité de regarder comment les équilibres peuvent bouger. La situation n'est pas satisfaisante. Ce que je voudrais globalement dire, et la position qui est la mienne, de porte-parole de l'offre et des entrepreneurs, c'est qu'on ne peut pas considérer que un décrochage social comme celui que nous avons avec des revendications de hausse de salaire, de ce que la gauche porte et qui nous inquiète, il faut qu'on soit capable d'y répondre convenablement, mieux et en préservant un équilibre dans nos entreprises. Mais on peut pas rester sourd au fait
à l'expression
que
de plus de 10 millions de personnes, de presque 20.
Oui. De presque 20.
Mais oui, mais non, et, mais c'est
et,
clair.
Et de continuer à se dire non, non, on était dans le juste, dans le vrai, et la politique de l'offre, ça marche, et puis un jour viendra où tout le monde sera content, même si l'horizon s'éloigne. Non, il y a un problème, et il faut qu'on arrive à le résoudre. Et j'allais dire, il faut qu'on arrive à le résoudre entre gens raisonnables, même parmi vos auditeurs.
Ah, mais j'en ai plein des très raisonnables. Hein.
Bon, ils peuvent s'offusquer du fait qu'on puisse réfléchir au fait que là, globalement, il y a quelque chose qui est parti un peu en vrille et qu'on doit être capable de le corriger. Je crois que c'est notre travail, notre responsabilité à nous de prendre le problème et d'y apporter des réponses.
Agnès, vous vouliez réagir, Agnès
Benassi-Carré. Pour clarifier le débat sur la fiscalité, je crois que c'est utile de séparer deux sujets. Un premier sujet est comment redresser les finances publiques et est-ce que la fiscalité fait partie de la solution malgré le niveau de prélèvement obligatoire aujourd'hui qui est quand même très élevé en France. Et la deuxième question, c'est est-ce que la répartition des impôts est optimale en France? Et là, on peut effectivement... Donc, la TVA sociale, c'est plutôt dans ce deuxième paquet que dans le premier. C'est ça que je voulais dire.
Totalement d'accord avec vous.
Donc, on peut bien y sûr réfléchir pour mieux rémunérer le travail et taxer plus la consommation. Bon, mais... C'est pas ça qui va résoudre l'équation fiscale et réduire le déficit. C'était juste ça que
je voulais dire. Je vous entends. Les deux sujets existent.
Je termine 1 minute 40 très rapidement sur l'inflation avec vous, ensemble, tout le monde. Si on a le temps, on n'aura pas le temps. En deux mots, Patrick Artus, dans les Échos, dit: ne croyez pas que l'inflation est vaincue. Voilà, c'est une illusion. Tout ce qui freine l'inflation aujourd'hui est transitoire et va disparaître en 2025. Les importations ont baissé parce que le prix des matières premières a baissé, mais ça ne durera pas. Les marges des entreprises ont baissé, mais elles vont se stabiliser et les tensions sur le marché du travail sont bien là avec des revendications salariales, donc ça va repartir.
Le sujet de l'inflation, je ne vais pas reprendre mon bâton habituel, mais je pense que le sujet de l'inflation s'est beaucoup complexifié à travers le temps et ça n'a pas été pris en compte dans les indices qu'on utilise pour mesurer cette inflation. Voilà, je ne vais pas reprendre le chapitre, comme d'habitude, sur l'inflation des actifs, qui devrait aussi de l'immobilier, de plein de biens qui devraient être dans cet indice parce qu'effectivement, l'entrée de la monnaie et sa diffusion a changé depuis maintenant une vingtaine d'années. Par contre, comme les auditeurs pourront le constater s'ils vont voir certains graphiques qui sont publiés, on voit bien que depuis 2008, on a eu une augmentation considérable des bilans des banques centrales, puisqu'ils ont en fait entre x5 et x8, et comme par hasard, eh bien, on a une augmentation continue des dettes publiques au niveau mondial. Donc il y a un chiffre qui est paru ce matin, donné par au niveau des. Je crois que ça doit être le FMI qui l'a quand même donné ce chiffre, où en fait on est à 90 000 milliards de dollars de dettes souveraines au niveau mondial, et pour la première fois sans Covid, on a dépassé à nouveau les 100% de pays. Donc il y a bien un problème quelque part, effectivement, qui est lié à de la liquidité qui est là. Et cette liquidité, effectivement, vient alimenter des hausses de prix et elle va fluctuer selon les circonstances économiques. Le Covid a donné des bouchons d'étranglement, on l'a vu dans les prêts à la consommation, et on verra peut-être d'autres bouchons se faire autrement. Voilà.
Merci. Donc, merci Nathalie Janson, Agnès Benassi-Carré, Léonidas Kalogeropoulos. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.